France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le crime organisé engage un rapport de force avec l'État. Ce sont les responsables de la police qui l'écrivent dans une note très alarmante. On va vous la détailler dans un instant. Et on en reparlera avec notre invité à partir de 13h30. Le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini, sera avec nous. On évoquera également son parcours, l'enfant du quartier de la Paillade à Montpellier, né au Maroc, devenu avocat. Puis magistrat, j'attends vos questions pour lui. À suivre encore, l'ex-nageur Yannick Agnel, bientôt jugé pour viol sur mineur. Famine à Gaza, quel espoir de paix. Anna Assouline de l'association Les Guerrières de la Paix rentre à peine d'Israël. Elle fait des propositions. Elle est notre invitée dans quelques minutes. Nous parlerons également de l'histoire étonnante de ce patient. Bonjour Victor Delande. Qui a été sauvé lors d'une téléconsultation.
Oui, il doit son salut à un espace de téléconsultation récemment installé dans une gare de l'Essonne et non pas une simple cabine avec un médecin en visioconférence. C'est parce qu'il y avait une infirmière présente sur place qui a tout de suite mesuré la gravité de l'état du patient que ce dernier a pu s'en tirer.
A tout de suite pour vos explications. Nous serons également dans le Berry où une sculpture d'Auguste Rodin a été retrouvée miraculeusement par une famille. Et en Ardèche, la marque Clément Faugier dit adieu à la mention Ardèche sur ses boîtes de crème de marron.
On est aujourd'hui dans l'incapacité de fournir la totalité des châtaignes qu'utilise nos transformateurs. Il faudrait qu'on soit dans la capacité de produire 3 à 4 fois plus de châtaignes sur le département pour pouvoir tous les fournir.
À 13h50, ce sera l'heure de la pistache dans le C'est la France de Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest avec la ruée sur le chocolat de Dubaï. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La romancière Héloïse Gay de Bélissène demande Elvis Presley à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Alors, il y a les alertes chaque jour ou presque dans l'actualité. Tentative d'enlèvement liée aux crypto-monnaies en plein Paris. C'était avant-hier ou encore cette fusillade en plein jour. Quartier Villejean à Rennes, c'était il y a un mois, lié au trafic de drogue. Et puis, il y a les chiffres des autorités qui confirment cette impression. Entre 2021 et 2024, les assassinats et tentatives d'assassinat ont augmenté de 33% dans notre pays. C'est ce que nous apprend une note de la Direction nationale de la police judiciaire. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Vous avez consulté cette note. Elle précise que la criminalité tisse sa toile et qu'aucun territoire n'y échappe.
Oui, une note qui croise les dernières grandes enquêtes menées en France contre la DZ Mafia à Marseille et celle qui a concerné la traque de Mohamed Abra. Les petites enquêtes, entre guillemets, des opérations place nette avec les grandes opérations d'infiltration numérique européenne de ces 5 dernières années comme Encrocha ou SkyICC. Et cela montre au final à quel point on se retrouve avec des emprises mafieuses à l'échelle de villages et de petites villes partout en France et en très grande partie liées au trafic de drogue et à l'arrivée massive de la cocaïne qui a démultiplié les moyens financiers des organisations criminelles, des groupes mafieux qui peuvent recruter à tour de bras via les messageries cryptées. La note montre à quel point il est facile de sous-traiter les basses besognes, enlèvement, séquestration, élimination d'un concurrent avec cet exemple à Perpignan où les enquêteurs se sont rendus compte que les différents clans qui se battent pour le contrôle des points de vente avait recruté des mercenaires bulgares et une équipe de tueurs marseillais.
Et le profil ainsi que les activités des criminels ont beaucoup changé.
Alors la note du CIRASCO, le service du renseignement criminel de la police judiciaire, dresse le profil d'organisations qui ne sont plus verticales comme les mafias italiennes, mais plus horizontales avec des associés en fonction des marchés à conquérir. Des groupes criminels qui se sont diversifiés, on le sait, dans le rap, la sécurité, des établissements de nuit, la prostitution de cité. Et dernièrement, vous l'avez dit, le kidnapping dans le secteur de la crypto-monnaie, des organisations criminelles qui cherchent effectivement à imposer un rapport de force avec l'État. On l'a vu avec les opérations pour menacer les gardiens de prison et la crainte que cela aille beaucoup plus loin encore, comme dans certains pays d'Amérique du Sud.
Merci Emmanuel Leclerc. On en reparle donc à 13h30 avec notre invité, le procureur d'Alès dans le Gard. On en reparlera également dimanche matin à partir de 9h10 dans le magazine Interception, magazine de la rédaction Enquête Exceptionnelle à laquelle vous avez participé, Emmanuel. Hier, c'est Emmanuel Macron qui a repris la main sur ce dossier en visite au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, pendant que son Premier ministre, François Bayrou, tentait lui de se sortir de l'affaire Bétarame. Il a été entendu pendant près de 5h30 par la commission d'enquête parlementaire sur ce qu'il savait des violences au sein de l'établissement scolaire. Et sur ce point, les deux rapporteurs de la commission, jusqu'ici sur la même longueur d'onde, n'ont clairement plus la même lecture aujourd'hui. La députée Renaissance Violette Spielboot répond au député insoumis Paul Vanier.
Elle me paraît très importante, cette audition, car elle permet de confirmer que le Premier ministre, à plusieurs reprises, ici à l'Assemblée nationale, à Pau, devant les victimes de Bétarame, a menti. Il a menti et il le reconnaît en faisant devant la commission d'enquête varier très profondément, très notablement, sa version de toute une série de faits, de sa connaissance des faits de violence physique et sexuelle à Bétarame qu'il reconnaît désormais, à la question de son rapport au juge Mirande, par exemple.
Le Premier ministre, hier soir, a répondu sous serment qu'il n'avait jamais menti, et je le crois. Moi, ce que je retiens de l'audition de François Bayrou, c'est une défense extrêmement vigoureuse d'un homme politique qui a été attaqué depuis des mois dans son honneur, dans son intégrité, par mon collègue Paul Vanier, et nous en discutons sereinement, ça peut surprendre, mais nous en discutons, nous n'avons pas le même point de vue. Nous avons eu une audition de 5h30 qui lui a permis de répondre à toutes les questions et je constate qu'il ne s'est pas dérobé.
Désaccord donc ce matin au micro de Claire Flochel. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous êtes à l'Élysée où se tenait ce matin le Conseil des ministres. Bon, c'est maintenant à l'opinion publique de juger. Qu'en dit-on du côté du Premier ministre ? Pense-t-il pouvoir tourner la page ?
Alors en tout cas, parmi ses très proches, on estime qu'il a fait la meilleure audition possible. Il a suivi le plan, la stratégie de défense avait été fixée, attaquée, pour démontrer, je cite, que cette affaire est une machination politique et qu'il était hier face à un tribunal populaire soviétique, selon les mots de l'un de ses conseillers. Mais ces 5 heures d'audition ont-elles permis de purger cette affaire une bonne fois pour toutes ? Non, c'est un poison lent, admet un élu du Modem. Il en ressort abîmé, c'est le venin du doute, très difficile à dissiper, même si c'est injuste, d'après cet élu. Et puis au-delà de son cercle proche, la critique est plus sévère dans le camp présidentiel. Il est apparu ramolli, tacle un conseiller de l'exécutif. Brouillon, confus, abonde une députée Renaissance. Cette affaire ne va pas le tuer politiquement, dit-elle, mais ça souligne son incapacité à agir, à faire avancer les dossiers à Matignon. Un camp présidentiel qui s'inquiète en effet plus largement du spectacle politique offert cette semaine. Mardi soir, un président qui parle 3 heures pour ne rien annoncer. Mercredi, un Premier ministre accaparé par sa défense. Qui gouverne ? S'agace un conseiller ministériel.
Merci Marie Mollet, en direct avec les moyens techniques de Romain Luquiens. La question des violences sexuelles qui, aujourd'hui, s'invite à Cannes. Cannes où un acteur accusé de viol a été interdit de croisette par le festival. Bonjour Laurélie Carrive.
Bonjour.
Il joue un second rôle dans le film Dossier 137 qui est présenté aujourd'hui.
Oui, un film très attendu de Dominique Moll, le réalisateur de La Nuit du 12 qui racontait un féminicide. L'acteur en question s'appelle Théo Navarro-Mussi, visage prometteur de la série Hippocrate. Dans Dossier 137, il joue un policier visé par une enquête de l'IGPN. Le film a été tourné fin 2024. La production ignore alors qu'un an plus tôt, 3 de ses ex-compagnes ont porté plainte contre lui. Elle l'accuse de viol, violence physique et morale, selon Télérama. Leur plainte a été classée sans suite le mois dernier, mais les 3 femmes ont l'intention de faire un recours. La semaine dernière, l'ADA, l'association des actrices, s'en est donc fait l'écho auprès du Festival de Cannes, qui a décidé d'écarter Théo Navarro-Mussi.
Alors, quelle est la ligne du festival aujourd'hui ? Dans quel cas une personnalité n'est-elle pas la bienvenue ?
Eh bien, à partir du moment où une procédure est toujours en cours, explique Thierry Frémaux, le délégué général, et il considère que c'est le cas, ici. Un revirement significatif pour celui qui estimait encore l'an dernier qu'un festival ne devait pas se substituer au système judiciaire. Au micro de France Inter tout à l'heure, le réalisateur Dominique Moll explique être totalement en phase avec cette décision.
Vous avez vu La Nuit du 12, donc vous vous doutez bien que les questions de violence faites aux femmes, j'y suis assez sensible. Et du coup, en accord avec le festival, la production et le comédien en question, on a décidé qu'il ne fallait pas le mettre en lumière.
Théo Navarro-Mussi qui affirme à Télérama qu'il avait, avant même cette décision, pris le parti de ne pas venir à Cannes pour ne pas nuire au film.
Merci Laurélie Carrive. Lui sera jugé pour viol et agression sexuelle sur mineurs. L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel est renvoyé devant la cour criminelle du Haut-Rhin. Bonjour Nolwenn Lejeune.
Bonjour.
Annonce du procureur de Mulhouse ce matin. C'est la fille de son ancien entraîneur qui l'accuse.
Oui, une jeune femme âgée aujourd'hui de 23 ans qui n'en avait que 13 à l'époque, quand lui en avait 24. Les viols pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle porte sur la période du 31 décembre 2015 au 31 août 2016 et se sont produits à Mulhouse et dans la commune toute proche de Riedisheim, mais aussi en Thaïlande et en Espagne, détaille le communiqué du procureur Rémi Heitz. Le magistrat précise que le nageur est également poursuivi pour agression sexuelle sur la même victime, qu'il peut faire appel de ce renvoi mais reste sous contrôle judiciaire. À l'époque, Yannick Agnel était hébergé chez son entraîneur mulhousien, Lionel Orter. Il n'a jamais nié avoir eu une relation avec l'adolescente, mais a toujours affirmé que cette relation était amoureuse et consentie. La jeune femme avait porté plainte durant l'été 2021, plainte qui avait débouché sur la mise en examen du nageur 5 mois plus tard. En juillet dernier, Yannick Agnel est revenu à sa demande dans le bureau du juge d'instruction pour être confronté à son accusatrice. Lui qui a pris sa retraite sportive en 2016 est auréolé d'un des plus beaux palmarès de la natation française. 2 médailles d'or glanées à Londres en 2012 sur le 200 mètres nage libre et le relais 4 fois 100 mètres, le même doublé raflé l'année suivante au championnat du monde à Barcelone.
Nolwenn Lejeune, elle avait déclaré être la victime de tags et de menaces antisémites. C'était fin 2024, des dénonciations qui se sont au final avérées mensongères. Cette femme a été condamnée hier par le tribunal judiciaire de Paris à 2 ans et demi de prison, dont 1 an ferme. L'ancien président Nicolas Sarkozy, lui, ne porte plus de bracelet électronique. Il a été admis au régime de la libération conditionnelle. Il peut y prétendre car il a 70 ans et il a purgé la moitié de sa peine. Il avait été définitivement condamné en décembre à 1 an d'emprisonnement ferme sous bracelet dans l'affaire des écoutes. Les représentants des principales religions entrent dans le débat sur la fin de vie. La proposition de loi sur l'aide à mourir, étudiée en ce moment à l'Assemblée, comporte un risque de graves dérives et de basculement radical. Voilà ce qu'écrivent les responsables des principaux cultes. L'autre texte de loi, celui sur le développement des soins palliatifs, devait être plus consensuel, mais il a donné lieu hier soir à une passe d'armes à l'Assemblée. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Un article qui visait à renforcer la formation aux soins palliatifs a été rejeté.
Oui, hier soir, une majorité de députés a considéré que le texte allait trop loin. En cause, un amendement macroniste qui prévoyait la création d'un diplôme spécifique à la médecine palliative, mais aussi, et c'est là que ça coince, à l'aide active à mourir. Résultat, c'est tout l'article 8 qui est parti à la poubelle. Réaction de Claire Fourcade, médecin et présidente de la Société française d'accompagnement et soins palliatifs.
On en arrive à cette absurdité, parce que je pense que la totalité des députés étaient favorables à renforcer la formation de l'ensemble des professionnels de santé. Tout le monde savait que c'était important et qu'en cherchant à mêler les deux sujets et à mêler les deux textes alors qu'ils ont été séparés, et ben on arrive à cette conclusion désolante que pour ne pas faire des acteurs de soins palliatifs les spécialistes de l'aide à mourir, on limite les possibilités de formation et le message qui est envoyé.
L'abandon d'une mesure donc très consensuelle, cela sonne comme un avertissement pour les députés qui souhaiteraient assouplir davantage les critères d'accès à l'aide à mourir. Met en garde Annie Vidal, rapporteure du texte.
Oui, c'est un signe qui consiste à dire ne mélangeons pas les deux sujets. Discutons des soins palliatifs, nous discuterons ensuite de l'aide à mourir et n'allons pas très loin, ni pour l'un ni pour l'autre. Sinon, on n'est pas d'accord. C'est un message politique, évidemment.
Concernant la formation des soignants aux soins palliatifs, la députée se veut rassurante. Cela pourrait se faire en dehors de la loi, de manière réglementaire, c'est-à-dire en faisant évoluer les cursus universitaires.
Merci Alice Cachaner. C'est une réponse aux déserts médicaux. De plus en plus de communes se dotent d'espaces de téléconsultation. Les sceptiques diront que ça ne remplace pas un vrai médecin. Et bien dans l'Essonne, ce dispositif a permis de sauver un patient âgé de 69 ans. C'était fin avril. Cet homme se sent mal, il cherche désespérément un généraliste, il n'en trouve pas. Alors il finit par consulter à distance en gare d'Épinay-sur-Orge. Victor Dolande, vous nous racontez la suite.
Et oui, quand Yann, ce patient de 69 ans, arrive dans cet espace santé, l'infirmière libérale Corinne Moussard comprend tout de suite qu'il y a un problème. Sa fréquence respiratoire est très élevée, ses doigts, son visage, ses lèvres sont violées, il respire mal. L'infirmière lui prend alors ses constantes.
On a discuté avec le médecin, on a décidé d'appeler le SAMU. Et le SAMU, quand je lui ai expliqué un petit peu les constantes du monsieur et comment il était, ils m'ont dit « je vous envoie une ambulance dans 1 heure ». Je lui ai dit « non, non, dans 1 heure, c'est trop ». Donc ils m'ont envoyé une ambulance du coup dans les 10 minutes.
Arrivé à l'hôpital de Saclay, Yann passe de nombreux examens et on lui diagnostique très vite une pneumonie. Il est passé tout près de la mort, comme le raconte l'infirmière.
Quand il est arrivé à l'hôpital, le médecin qui l'a vu lui a dit qu'il lui restait 15 à 20 minutes à vivre s'il n'avait pas été mis sous oxygène rapidement.
Il a passé ensuite une semaine en réanimation et une de plus en soins intensifs. À sa sortie de l'hôpital, premier réflexe, retrouver l'infirmière pour la remercier de lui avoir sauvé la vie.
Elle était heureuse de me voir, moi j'étais heureux de la retrouver. Il y a eu une intensité à ce moment-là, une émotion, et elle m'a dit effectivement « qu'est-ce que je suis heureux de vous voir à nouveau maintenant et en meilleur état par rapport à ce que je vous ai connu quand vous êtes venu la première fois ».
Ce retraité de 69 ans veut désormais profiter de sa deuxième vie auprès de ses petits-enfants. Il souhaite aussi que ce genre d'espace de téléconsultation se multiplie dans les prochaines années. Et de conclure, le médecin à distance c'est bien, mais c'est la présence de l'infirmière dans cet espace qui m'a sauvé la vie.
On a noté qu'il a aussi gardé le sens de l'humour. Récit signé Victor Dolande.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Est-ce un espoir pour les habitants de Gaza qui crient famine? La Fondation humanitaire de Gaza, une ONG soutenue par les États-Unis, dit vouloir distribuer de l'aide dans l'enclave d'ici la fin du mois. Elle affirme mener en ce moment des discussions avec Israël. Israël qui a fermé tous les points de passage. Les bombardements israéliens, eux, se poursuivent. Au moins 82 morts à Gaza depuis ce matin, selon la défense civile palestinienne. Et puis hier soir, en Cisjordanie, une femme israélienne, une femme enceinte, a été touchée par des tirs. Elle est morte, elle se rendait à la maternité. Son bébé, lui, a pu être sauvé. Invitée de ce 13-14, Anna Assouline, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de l'Assemblée nationale où vous teniez une conférence de presse il y a quelques minutes. Je vous présente, vous êtes la fondatrice de l'association Les Guerrières de la Paix qui réunit des femmes de toute culture, de toute religion, et vous rentrez d'un voyage en Israël et dans les territoires palestiniens. Vous étiez là-bas accompagnée de députés. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter ce que vous avez vu ?
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, nous avons passé plusieurs jours en Israël, en Cisjordanie, de Ramallah, Hébron, Tel Aviv, Jérusalem, jusqu'aux portes de Gaza, avec une délégation de députés français et européens, avec comme but premier d'aller à la rencontre des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes qui continuent envers et contre tout au cœur du chaos, de la guerre, de la dévastation, de la fatigue et du désespoir, de tracer un chemin et d'appeler de tout leur souffle à la paix, à l'arrêt de cette guerre, à la fin de l'occupation, à la fin de la colonisation illégale et à des solutions politiques concrètes. Notamment, nombreux d'entre eux nous ont redit à quel point ils avaient une attente énorme vis-à-vis de la reconnaissance d'un État palestinien par la France. Nous y étions aussi pour aller à cette grande conférence, presque qu'on pourrait qualifier d'historique, qui a eu lieu à Jérusalem les 8 et 9 mai dernier et qui a rassemblé plus de 6000 personnes, des militants, des ONG israéliennes et palestiniennes, mais aussi des diplomates, d'anciens ministres, des ambassadeurs du monde entier, réunis pour crier dans un même souffle leur demande que cette guerre meurtrière cesse immédiatement. Et puis nous sommes allés sur le terrain se confronter à la réalité et aux difficultés, aux entraves, à cette Cisjordanie de plus en plus grignotée par des avant-postes, la multiplication des colonies illégales, par ce peuple israélien au bord de la rupture, cette démocratie qui vacille, c'est cette population qui reste encore dans la douleur et dans l'attente du retour de ses otages, et Gaza détruite, complètement étouffé sous les bombardements incessants de l'armée israélienne.
Gaza, aujourd'hui, à laquelle vous n'avez plus accédé, Anna Assouline.
Non, nous n'avons pu y accéder. Nous avons été jusqu'aux portes de Gaza, c'est-à-dire dans cette zone que certains appellent l'enveloppe de Gaza, notamment où il y a eu tous ces kibbutz et le kibbutz Be'eri, où nous étions aux côtés du fils d'une grande militante pour la paix, Vivian Silver, assassinée le 7 octobre par le Hamas, et qui a fait le choix aujourd'hui de se battre plus que jamais pour la paix et des solutions politiques. Et nous,
mais il y a encore des voies dévastées. Excusez-moi, mais il y a encore des voies, il y a encore un chemin pour la paix. Ça paraît surréaliste de dire ça aujourd'hui quand on voit la situation sur place.
Oui, non seulement il y a des voies, mais vous savez, c'est précisément parce que nous sommes dans une situation désespérée et notre combat pour la paix et le leur surtout, ceux des concernés, ceux qui vivent la guerre dans leur chair, ne s'épargnent aucune lucidité par rapport à la gravité de la situation. Et c'est précisément parce que cette situation est aussi désespérée aujourd'hui que les voix de celles et ceux qui continuent de se tenir debout, qui continuent de tracer un horizon de paix et de justice, et c'est à travers des solutions très concrètes. On a pu rencontrer des gens qui ont notamment les gens de l'initiative de Genève qui ont plus de 150 pages d'un plan de paix qui répond à toutes les questions qui nous sont présentées aujourd'hui comme des entraves, la continuité territoriale d'un État palestinien, que faire des colonies, le statut de Jérusalem, toutes ces questions, le droit au retour des réfugiés palestiniens, toutes ces questions qui sont présentées comme des impasses indépassables, c'est des questions qui sont traitées par ces militants de terrain de manière concrète et pragmatique. Maintenant, il y a une urgence actuellement, c'est l'urgence de Gaza, c'est de mettre un terme à cette guerre, à cette destruction, de sauver des vies. Et il faut qu'il y ait un horizon politique derrière, et cet horizon est porté aujourd'hui par des militants qui sont des militants en responsabilité, qui ont traité les questions à la fois économiques, territoriales, qui ont trouvé des solutions. Voilà, et c'est ces solutions aujourd'hui que nous, on a envie de faire résonner et de porter au sein de nos débats politiques français et au sein de nos institutions françaises.
Merci Anna Assouline d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14, fondatrice de l'association Les Guerrières de la Paix, donc, et de retour d'Israël et des territoires palestiniens. Lui est incarcéré en Algérie depuis mi-novembre. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison par la justice algérienne, notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire, vient de recevoir un nouveau prix ce matin à Prague, en République tchèque, le prix Téner pour la liberté de parole, la République tchèque où résident deux de ses filles, notamment sa fille cadette, Sabea Sansal, qui a pris la parole ce matin.
Nous n'avons pas reçu aucune réponse de la part de députés de l'Algérie à Alger, ni de la France, parce que nous avons demandé aussi au président Macron, et nous n'avons pas de nouvelles. Notre frère est totalement isolé, on ne sait rien de sa santé, de comment va-t-il, on ne sait rien. Et nous avons aussi écrit une lettre personnellement adressée à lui, sans aucune réponse. Je suis persuadée qu'il n'a pas reçu.
Sabea Sansal, qui a officiellement demandé au régime d'Alger une grâce présidentielle, elle répondait à notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig. Entre Ukrainiens et Russes, le rendez-vous d'Istanbul aujourd'hui semble déjà manqué. Non seulement Vladimir Poutine n'a pas fait le déplacement, mais l'un de ses porte-parole qualifie ce matin Zelensky de clown et de raté. Le président ukrainien, lui, est à Ankara, dans la capitale turque. Il estime que la délégation russe qui a été envoyée pour négocier est une farce. Tout cela part donc très mal. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Istanbul. Pourtant, Marie-Pierre, les négociations normalement doivent débuter cet après-midi. C'est ce qui est prévu.
Oui, si elles ne capotent pas avant même d'avoir commencé, hein, vu ces noms d'oiseaux qui s'échangent, ce devrait être tout à l'heure sur les rives du Bosphore, au palais de Dolmabahçe, normalement. Depuis ce matin, une foule de journalistes, ils sont plusieurs centaines, ils patientent, mais toujours pas de délégation. L'Ukraine aurait obtenu que ces pourparlers ne débutent que dans l'après-midi, peut-être pour donner le temps à sa délégation de rejoindre Istanbul. Le président ukrainien Zelensky dit que sa délégation est de haut niveau. Il n'a pas caché sa déception tout à l'heure, c'était en arrivant à Ankara sur le tarmac de l'aéroport, devant la composition de l'équipe de négociateurs russes.
Le niveau de la délégation russe n'est pas encore officiellement connu, mais ce qu'on en voit, ça ressemble plutôt à une farce. Nous allons réfléchir à ce que nous allons faire.
Tout le monde sait, ajoute Zelensky, qui prend les décisions en Russie. Il entend bien sûr Vladimir Poutine. Alors c'est vrai que le pédigré des négociateurs russes n'incite guère à l'optimisme sur une percée à Istanbul. Ils ne sont pas à même de prendre des décisions fortes. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui avaient déjà été dépêchés de Moscou pour les premiers pourparlers de paix russo-ukrainien ici, qui avaient échoué. Alors Volodymyr Zelensky dit qu'il décidera de la suite après son entretien avec le président turc. Il doit donner une conférence de presse à Ankara dans l'après-midi. On en saura alors peut-être un peu plus.
Merci Marie-Pierre Véraud. Le président américain Donald Trump, lui, est toujours au Qatar. Il assure ce matin que son pays et l'Iran se rapprochent d'un accord sur le nucléaire. Trump, dont la menace d'imposer des droits de douane aux produits étrangers semble faire réfléchir les grands groupes, les labos pharmaceutiques par exemple. Le français Sanofi va investir au moins 20 milliards de dollars outre-Atlantique ces 5 prochaines années. Bonjour Cécile Bideau.
Bonjour.
Et ça n'est pas un cas isolé.
Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez,
citait plus tôt, Roche 50 milliards, Novartis 23 milliards et donc maintenant 20 milliards pour Sanofi. Ces trois derniers mois, pas loin de 250 milliards de dollars d'investissement ont été annoncés. Les Big Pharma, ces géants de l'industrie pharmaceutique, veulent construire davantage de sites de production de médicaments aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont déjà très présents sur le marché américain, la moitié des ventes de Sanofi par exemple, mais les médicaments y sont majoritairement importés. Ils sont en effet exemptés de droits de douane de par leur caractère vital, mais Donald Trump menace aujourd'hui de les taxer. En produisant sur place, les laboratoires anticipent donc ce risque. Il y a un mois, une trentaine de laboratoires pharmaceutiques ont écrit à la présidente de la Commission européenne pour lui demander de prendre des mesures. Sinon, ce sera, je cite, l'exode massif de l'Europe vers les États-Unis. Car l'autre facteur d'attractivité, c'est le prix des médicaments. Ils sont en moyenne 2,5 fois plus chers qu'en Europe. Mais là aussi, la donne pourrait changer. Lundi, Donald Trump a annoncé un plan pour baisser les tarifs de 50 à 80% sans préciser comment il comptait s'y prendre.
Cécile Bidot pour ses explications. Là, on est à une plus petite échelle, mais c'est une marque que les consommateurs connaissent bien. Clément Faugier, l'inventeur de la crème de marron. Et bien désormais, l'entreprise de Privas ne peut plus inscrire sur ses boîtes crème de marron d'Ardèche. La mention Ardèche doit disparaître, consigne de la répression des fraudes. Explication, toutes ces châtaignes ne viennent pas d'Ardèche, car la production locale, Pierre-Jean Pluvy, est insuffisante.
Depuis la création d'une appellation d'origine protégée Châtaigne d'Ardèche en 2006, la question revient régulièrement dans l'actualité. Clément Faugier a-t-il le droit de mettre sur ses boîtes crème de marron d'Ardèche? L'entreprise privadoise produit 5000 tonnes de crème de marron par an et la seule production ardéchoise de châtaigne n'y suffirait pas. Ils font appel à d'autres origines. D'autant plus que Faugier n'est pas le seul transformateur du département. Alors on pourrait penser que les producteurs ardéchois et les transformateurs qui n'utilisent que des fruits AOP se réjouissent. Eh bien pas du tout. Pour le syndicat des producteurs, Clément Faugier est un ambassadeur de la crème de marron en France et dans le monde. L'entreprise exporte dans 80 pays. Et c'est cette entreprise qui est à l'origine de cette recette à la châtaigne depuis 1882. Le comité interprofessionnel de la châtaigne d'Ardèche ne se réjouit pas non plus. Ce sera une clarification pour les consommateurs, dit César Mars, son président. Mais il ne faudrait pas que Clément Faugier réduise ses achats de châtaigne d'Ardèche.
Explication ici Drôme Ardèche. Il a longtemps été la voix de l'info à la mi-journée à 7h06 sur la deuxième chaîne. Le journaliste Daniel Bilalian est mort hier à l'âge de 78 ans. On l'a appris ce matin.
Madame, monsieur, bonsoir. Pourvu qu'ils réussissent, pourvu que la conférence de Genève sur les réfugiés vietnamiens aboutisse à des décisions concrètes et non pas à des affrontements politiques, car chaque
voix
jour...
Voix et style grave, fidèle au service public pendant 40 ans. Il a également présenté de nombreuses soirées électorales et dirigé le service des sports de France Télévisions. On avait perdu sa trace depuis 1906. Une sculpture d'Auguste Rodin intitulée « Le désespoir », un marbre représentant une femme nue en train de se tenir le pied. Bien, cette sculpture vient d'être retrouvée tout à fait par hasard. Il y a quelques semaines, par une famille berrichonne basée près de Vierzon et qui l'avait, ce trésor, cette sculpture, sous les yeux depuis des années, Jérôme Collin.
Il y a pourtant bien la signature d'Auguste Rodin sur la sculpture, mais la famille est convaincue que c'est un faux. C'est Aymeric Rouillac qui raconte.
Une famille d'industriels qui me disent « Écoutez, on voudrait vous montrer cette petite tireuse d'épines. Elle est posée sur le piano. Je ne faisais pas tellement attention. Elle était perdue au milieu des cadres photos. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?»
Il lui présente le marbre.
J'étais émerveillé. La qualité de réalisation est véritablement virtuose. Il y a une sensualité sur la peau de cette femme alors que c'est du marbre. On n'en revient pas.
La technique du sculpteur français est immédiatement reconnaissable, mais il faut quand même une enquête généalogique pour confirmer qu'il peut s'agir d'un Rodin.
Au début du XXe siècle, il y avait un ancêtre qui était commissaire-priseur à Paris, qui avait procédé à des ventes aux enchères prestigieuses. Et donc on a compris que c'était par lui que ce marbre était rentré un jour dans la famille.
Une pièce rarissime qui date de la fin du XIXe siècle, réalisée à l'époque où Rodin est au sommet de son art.
Il y a près de 6000 résultats de ventes aux enchères pour les œuvres de Rodin, c'est un artiste qui a énormément créé. il y a moins de 80 marbres. C'est le 10e marbre à apparaître aux enchères depuis 10 ans à l'échelle du monde entier. Et découvrir un marbre inconnu de Rodin, c'est un moment complètement fou dans une carrière.
Le prix de départ est fixé à 500 000 euros pour cette vente aux enchères. Mais pour les spécialistes, le marbre de Rodin devrait dépasser le million d'euros.
Et si vous voulez la voir, j'ai pas dit l'acheter, hein, la voir, vente aux enchères donc le 8 juin prochain, c'est au château de Villandry. Reportage de nos confrères d'ici Berry, 13h29. Sur Inter, à suivre dans la prochaine demi-heure, la météo orageuse d'Élodie Calac. Puis à 13h30, un magistrat que le grand public a découvert il y a quelques jours, le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini, avec nous. Comment la lutte contre les discriminations l'a conduit vers la justice? J'attends vos questions. 13h45, notre feuilleton avec Thomas Consani, notre tireur photo depuis près de 40 années. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribot et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Marie-Luce, bonjour.
Bonjour.
Marie-Luce, du chocolat et des pistaches.
Oui, ce sont les ingrédients du succès planétaire du chocolat de Dubaï. J'en ai cherché en vain. Mais au-delà de son goût, cette tablette de chocolat fascine, car elle révèle le pouvoir colossal des réseaux sociaux dans l'univers alimentaire.
Et avec vous, Frédéric, une écrivaine.
Oui, et une autre sucrerie. L'écrivaine, c'est Héloïse Gay de Bellicène, dont le dernier roman, Le King et le Prophète, vient de paraître chez Rivage. Et avec elle, c'est une chanson du King que nous écouterons, une ballade, My Boy, sa chanson préférée d'Elvis Presley.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce jeudi, je vous raconte La Guerre des Mondes, la pièce radiophonique montée par Orson Welles en 1938 qui aurait créé la panique aux États-Unis quand la légende est plus belle que la réalité, gardez la légende.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h sur Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Près de 800 éclairs ont frappé les Pyrénées-Atlantiques la nuit dernière, selon nos confrères d'ici Béarn, Bigorre. Activité orageuse exceptionnelle donc ces dernières heures sur le sud-ouest. Ça va se poursuivre?
Sur le sud-ouest et sur l'ouest du massif central, en effet, le temps devient à nouveau instable cet après-midi avec des averses, des orages, de la grêle possible. Sur les autres régions du sud, c'est ensoleillé. On peut tout de même avoir une averse vers l'Hérault, sur le relief corse. De l'orage attendu également sur le sud des Alpes jusqu'à l'intérieur de la Provence. Mistral et Tramontane soufflent autour de la Méditerranée. Du nord-ouest vers le centre-val de Loire et le Jura, là aussi le soleil l'emporte. Mais on a, en remontant vers le nord, on a quand même plus de nuages, hein, surtout au nord de la Seine. Les éclaircies sont vraiment discrètes. Le vent de nord-nord-est se fait sentir. Il apporte de l'air plus frais. Comptez 15 à 19 degrés sur les régions voisines de la Manche cet après-midi. 20 à 23 sur le reste de la moitié nord. Au sud, 23 à 26 degrés, mais pas plus de 17 à 19 sur l'ouest des Pyrénées. Et puis demain, plus de soleil. Et cette fois-ci, on surveillera les orages sur le sud-est.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Abdelkrim Grini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le procureur d'Alès dans le Gard. Vous intervenez en direct des locaux de nos confrères d'ici Gard-Lozère, que je remercie. Nous voulions vous donner la parole aujourd'hui, non pas pour parler du meurtre d'Aboubacar Cissé, ce jeune Malien tué dans une mosquée près d'Alès il y a quelques jours. C'est vous qui avez dirigé les premiers jours d'enquête, mais nous voulions évoquer ici avec vous votre parcours rare. Vous êtes aujourd'hui procureur, mais vous l'êtes devenu après avoir été avocat, après avoir grandi dans le quartier populaire de la Paillade à Montpellier et être né au Maroc. Vous êtes devenu français à l'âge de 19 ans. J'attends les questions des auditeurs. Pour vous, vous passez via l'application Radio France. Abdelkrim Grini, beaucoup de Français ont découvert votre parcours à l'occasion de cette affaire et de sa médiatisation. Est-ce que vous avez reçu des messages?
Alors, j'ai reçu des messages notamment de soutien à la suite d'un tweet d'un ancien élu RN qui m'avait intentionnellement ou non intentionnellement, je peux pas le dire, je ne sais pas, comme étant le meurtrier donc de la victime de cet assassinat.
Quand il a vu votre nom, il a cru que c'était le meurtrier.
Quand il a vu mon nom, il a cru
que
c'était le nom du meurtrier et beaucoup de personnes, mais aussi beaucoup de membres de ma famille ont vu ce tweet et ont été particulièrement blessés. Moi aussi, j'ai été particulièrement blessé et j'ai pu notamment recevoir énormément de messages. message de soutien effectivement de beaucoup de personnes à travers toute la France.
Alors vous êtes arrivé en France à l'âge de 4 ans, du Maroc. Votre famille s'installe à la Paillade à Montpellier dans les années 70. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'était que la Paillade dans les années 70 ?
Bah écoutez, la Paillade dans les années 70, dans les années 80, c'était une cité, c'était un grand quartier de Montpellier, en périphérie de Montpellier, qui était plutôt agréable, sincèrement, où beaucoup de communautés vivaient en harmonie. Moi, je me souviens, dans mon enfance, avoir beaucoup de copains qui étaient d'origine espagnole, d'origine portugaise, beaucoup d'origine de la communauté des gens du voyage, beaucoup aussi d'origine maghrébine. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, mais aussi beaucoup de personnes qui étaient nées en France, de souche française, et avec lesquelles tout se passait bien. On jouait ensemble, nous étions à l'école ensemble, et tout se passait assez bien, même si les conditions étaient un petit peu difficiles, notamment sur le plan économique, puisque malheureusement la Paillade concentrait beaucoup de familles dont les situations étaient assez précaires, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de milieux populaires.
C'est aussi une époque où le racisme était présent, hein. J'ai retrouvé trace notamment dans l'année 73, vous n'étiez pas encore en France, mais de ce qu'on appelait à l'époque les ratonnades, ces violences contre les Algériens qui en 1973 font plusieurs morts dans le sud de la France.
Effectivement, le racisme était assez présent et moi je me souviens lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais adolescent, lorsqu'il y avait des balles dans les villages aux alentours du quartier de la Paillade, nous avions 14, 15, 16 ans, nous voulions également aller danser et parfois certaines personnes du village voyaient d'un mauvais œil notre présence et on partait pour pas effectivement subir notamment des violences. Oui.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire toi tu dégages ?
Toi tu dégages, ouais. T'as rien à faire ici, rentre dans ton quartier, voilà.
À ce moment-là, pour vous, ça c'est une blessure, je suppose ?
Ben oui, c'est une blessure. Lorsque vous avez 13, 14, 15 ans et que vous subissez cela, et que vous prenez cela en pleine figure, ben on essaie de réagir. Alors, comme je l'avais dit à l'occasion d'une interview, soit on réagit avec la violence, soit on se dit, ben non, moi je vais pas être violent parce que je suis pas quelqu'un de violent et je vais essayer de m'accrocher aux études, de faire des études et montrer que je peux être quelqu'un de respecté, de respectable. Ça a été plutôt cette option que j'ai choisie et aujourd'hui, j'en récolte les fruits et j'en suis sincèrement très fier. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à une grande institution républicaine qui est l'École de la République et je sais ce que l'École de la République m'a donné et je sais ce que je dois à l'École de la République.
Mais est-ce que vous vous dites parfois, quand vous voyez des jeunes qui ont mal tourné dans votre bureau ou à l'audience, j'aurais pu prendre ce chemin-là, j'aurais pu être ce jeune-là ?
Alors, je sais que parfois ça m'est arrivé lorsque j'étais jeune, lorsque des situations étaient difficiles, lorsque des situations étaient humiliantes, d'en arriver à la facilité, d'en arriver à la violence. Mais je me suis toujours vraiment gardé de tomber dans cette facilité, de tomber dans la violence, de tomber dans la réaction violente, parce que c'est pas moi, c'est pas ma personne, et j'étais pas le seul. Nous étions énormément de jeunes dans cet état d'esprit. Et ce qui nous a beaucoup plus motivés, ça a été le combat associatif. Moi, dès 13-14 ans, j'ai commencé à militer dans le milieu associatif. Nous avons même créé une association à la Paillade à l'époque, qui était une des premières associations de quartier en 83. Nous avons milité, nous avons combattu le racisme, les discriminations, nous avons lutté pour l'égalité des droits, l'égalité des chances. J'étais encore un jeune adolescent à l'époque.
Et vous devenez avocat, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous croyez en la justice.
Moi, je crois en la société, je crois en la justice, je crois en la force du droit. C'est quelque chose dont je me suis très jeune rendu compte. Et puis, j'avais la chance d'avoir des parents cadrants, des parents aimants, et puis surtout un papa qui me disait que, attention, la violence, ça règle rien. Fais des études de mon fils et je suis sûr qu'un jour, tu verras, tu deviendras quelqu'un qui sera respecté. Et j'ai suivi cette voie. Et puis, naturellement, je me suis dirigé vers la fac de droit parce que j'avais de l'appétence pour cette matière. J'avais envie d'être un homme de droit. Et je vais avoir la chance et le bonheur, effectivement, de devenir à 25 ans avocat au barreau de Montpellier.
Et parmi les affaires que vous portez, il y a la lutte contre les discriminations. Vous en parliez il y a quelques minutes à l'entrée des fêtes de village. Là, c'est les discriminations à l'entrée des boîtes de nuit. Vous parvenez à faire condamner des établissements. Comment est-ce que vous procédez ?
Alors, effectivement, Lorsqu'on est adolescent, on n'est pas concerné, puisqu'on ne va pas en boîte de nuit à 14 ou 15 ans. Mais lorsque vous avez 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, que vous êtes étudiant, que vous êtes parfaitement assimilé, parfaitement intégré, que vous avez des amis de tout horizon, vous avez envie aussi de vous amuser un petit peu. Et lorsque parfois je voulais aller en boîte de nuit avec mes amis, il nous arrivait régulièrement, voire même très fréquemment, d'être refoulé à l'entrée par les portiers. Manifestement, c'était au faciès. Et cela, je ne l'acceptais pas. Et donc, c'était aussi un combat que j'ai mené lorsque j'ai prêté serment, lorsque je suis devenu avocat. Je voulais aussi mettre sur le débat et mettre dans les débats dans le débat judiciaire cette problématique de la discrimination dont étaient victimes notamment les jeunes à l'entrée des boîtes de nuit dans les environs de Montpellier. Et nous avons avec une association dont je connaissais l'existence, mais surtout dont beaucoup de membres étaient des amis d'enfance, opéré les premiers testing en la matière dans le territoire donc de la région de Montpellier, la Grande Motte, du côté de Palavas aussi. Plusieurs établissements ont été ciblés qui étaient réputés pour pratiquer la discrimination. Et à l'aide de ces testing avec Constoit Ducier, nous avons déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Montpellier de l'époque. Et puis le procureur a diligenté une enquête. Et ensuite, un procès s'est tenu devant le tribunal correctionnel de Montpellier en 97 ou 98 de mémoire.
Ça veut dire qu'il n'y a plus de discrimination aujourd'hui, notamment dans votre juridiction? Vous y veillez ?
Alors, dans le meilleur des mondes, je vous dirais qu'il n'y a plus de discrimination. Mais malheureusement, nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Et dans la discrimination, il y en a encore aujourd'hui. Ça, je le sais, parce que parfois, je suis saisi de plaintes pour discrimination. J'ai aussi parfois des membres de ma famille qui subissent la discrimination. En tout cas, nous y veillons. L'autorité judiciaire y veille. Les pouvoirs publics sont extrêmement sensibilisés à cette thématique, à cette question qui est fondamentale de la lutte contre les discriminations, mais aussi contre le racisme, contre l'antisémitisme. Tout cela est important. Et nous, procureurs de la République, nous n'hésitons pas à diligenter des enquêtes et à poursuivre les auteurs lorsque les faits nous paraissent suffisamment caractérisés.
Vous êtes aujourd'hui procureur. Vous nous avez dépeint tout à l'heure un quartier de la Paillade dans lequel, finalement, les Français, quelles que soient leurs origines et malgré de fortes tensions, parviennent à vivre ensemble. Est-ce que vous faites le même constat aujourd'hui, par exemple, sur une ville comme Alès, que vous connaissez bien ?
Alès, je connais très bien, ça fait 18 mois que j'y suis en poste. Je peux vous dire que l'immense majorité des gens qui y vivent sont des gens qui vivent dans la sérénité, qui sont des gens parfaitement apaisés. Il n'y a pas de difficultés particulières. Malheureusement, comme dans beaucoup de territoires sur le pays aujourd'hui, il y a des endroits où parfois ça peut poser quelques difficultés, et notamment des difficultés communautaires, mais ça reste sincèrement très 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 à la marge.
Ça reste limité.
Les difficultés communautaires, je vous le dis sincèrement, ça reste très très à la marge. C'est beaucoup plus des difficultés liées aux conditions économiques, liées parfois à une certaine misère sociale, une certaine misère intellectuelle, même si j'aime pas ce terme-là, qui peut engendrer de la violence, qui peut engendrer de l'incompréhension entre les personnes. Mais ça reste, en tout cas, les tensions communautaires restent extrêmement marginales.
Vous avez employé le mot il y a quelques semaines, un mot très fort, d'ensauvagement de la société. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce mot pour parler de la situation, peut-être chez vous d'ailleurs ?
J'ai effectivement, à l'occasion d'un discours que j'ai tenu en janvier dernier, notamment lors de la rentrée solennelle du tribunal judiciaire d'Alès, j'avais employé à bon escient ce mot d'ensauvagement, et je l'ai assumé parce que je constate, mais je ne suis pas le seul à le constater, beaucoup de gens autour de moi le constatent, même les autorités étatiques le constatent. Il y a une certaine forme de violence aujourd'hui qui est de plus en plus décomplexée, qui peut aussi apparaître comme de plus en plus intense, parfois aussi des règlements de compte. Nous l'avons vu pas plus tard que à l'occasion de la minute de silence que nous avons tenue au tribunal judiciaire d'Alès, s'agissant des deux agents pénitentiaires qui ont été tués à Incarville, il y a un an. Ça témoigne, à mon sens, d'un certain ensauvagement de notre société, où certaines personnes sont prêtes à tout, elles sont sans foi ni loi, rien ne les arrête, pas même le respect de la vie humaine pour essayer de faire libérer un individu qui est mis en cause dans beaucoup d'affaires. Voilà, c'est malheureusement l'illustre témoignage et la parfaite illustration de cet ensauvagement de la société, mais aussi au quotidien des faits de violence intrafamiliales, des violences gratuites parfois sur la voie publique qui peuvent aussi venir être jugées à la barre de nos tribunaux.
Une note diffusée aujourd'hui, et France Inter, on vous en parlait tout à l'heure, a pu la consulter, cette note des services de police judiciaire qu'on a pu consulter, met en lumière à quel point les mafias aujourd'hui étendent leur emprise, pas seulement sur les grandes villes, mais aussi à l'échelle de villages et de petites villes partout en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ?
Alors, nous le constatons. Moi, avant d'être procureur de la République à Alès, j'ai été pendant 5 ans procureur de la République de Roanne, donc dans le département de la Loire, où déjà, à l'époque, j'avais constaté dans les environs de Roanne, mais aussi à Roanne et dans tout le département de la Loire, vraiment une certaine propension à ce trafic de stupéfiants qui se développait, et aussi aujourd'hui sur le bassin alésien, je fais le même constat. Certaines communes des Cévennes qui n'échappent pas à cela, et nous luttons vraiment avec énergie, avec détermination en lien avec les services d'enquête, que ce soit la police ou la gendarmerie, pour essayer justement de faire en sorte d'éradiquer ces trafics de stupéfiants.
La clé, c'est quoi selon vous ? Ça reste la consommation de drogue qui a augmenté dans notre pays ?
C'est-à-dire la clé, je comprends pas.
Comment régler le problème ? Quel est le nœud du problème ? Sur quoi est-ce qu'il faut agir ?
Il faut agir, à mon sens, déjà sur la répression. Une répression me paraît nécessaire et fondamentale pour lutter contre le trafic de stupéfiants, qui est une véritable gangrène. Et là, j'assume mes propos. Le trafic de stupéfiants, c'est une véritable gangrène de notre société. Il faut vraiment en avoir conscience et lutter et mettre tous les moyens pour lutter contre cela, contre le narcotrafic, avec tout ce que cela peut engendrer. Mais il faut aussi, à côté de cette répression, agir le plus en amont possible en matière de prévention, de faire en sorte que les adolescents soient sensibilisés au danger de la consommation de drogue, au danger aussi de tomber dans le trafic. Moi, à mon petit niveau, petit procureur, j'essaie de le faire régulièrement en allant dans des collèges et dans des lycées et essayer d'expliquer ce qu'est la justice, ce qu'est le rôle d'un procureur. Attention au harcèlement scolaire, attention à la consommation de drogue. Attention.
Si vous disent la justice n'existe pas, Monsieur Grigny, qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je leur dis que c'est pas vrai, que la justice existe et qu'il suffit de venir passer une journée avec moi dans le cadre de la permanence pénale au parquet et ils verront que la justice existe, que la justice travaille, qu'elle travaille bien, qu'elle fait de son mieux, qu'elle est déterminée, qu'elle est énergique et que l'ensemble des magistrats et l'ensemble des agents et personnels de l'institution judiciaire ne tarissent pas d'énergie pour faire en sorte que la justice puisse passer au quotidien et surtout que les victimes puissent être indemnisées dans leur préjudice.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le 13-14. Abdelkrim Grigny, procureur d'Alès dans le Gard, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, la vie d'un tireur de photos en noir et blanc. Ils ne sont plus très nombreux. Lui travaille pour les grands photographes. C'est Thomas Consagny qui a pris il y a 37 ans maintenant la suite de son père. Et nous le retrouvons aujourd'hui chez lui, à Choisy-le-Roi, pas très loin de Paris, dans une maison au mur évidemment couvert de photos.
Je fais de la photo, mais je ne suis pas photographe. Ça démarre, tu vois, à gauche, photo de Tony Frank, Christophe, qui est un de mes chanteurs préférés. Ouais, il y en a un peu beaucoup partout. Jimi Hendrix en haut par Dominique Tarlet. Et en haut, ça, c'est une de mes photos. Au Rajasthan. Miles Davis, Cantona, encore Gainsbourg, Patrice Lecomte, Picasso par Ribou. Une de mes photos là, préférées aussi, mais surtout pour la dédicace, puisque Marc a écrit à Thomas, tel père, tel fils. J'ai toujours baigné dans la photo accrochée au mur et aussi dans le laboratoire, puisque c'était le métier de mon père.
Donc le soir, quand je rentrais de l'école, je le retrouvais dans son labo. Mais l'envie de faire du tirage est venue bien plus tard. Il est venu à l'âge de 17 ans, en fin de compte.
Votre papa, donc tireur photo, vous, tireur et un peu photographe, et il y a d'autres... La lignée, elle est maintenue ou pas ?
C'est-à-dire que ma fille vient de m'annoncer qu'elle voulait faire une école photo, alors que je ne l'avais jamais poussée. Alors peut-être qu'inconsciemment, elle a été poussée avec les photos accrochées au mur, avec me voir perpétuellement avec un appareil photo en bandoulière. Elle est venue plusieurs fois au labo, elle voit des livres photos ici, elle sait ce que c'est une planche contact, elle m'aide des fois à regarder planche contact, à faire un editing. Donc là, elle m'a annoncé qu'elle voulait faire une école photo.
Et vous êtes inquiet ?
Ah, bonne question. Un petit peu quand même, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit photographe avec des téléphones, tout le monde poste des photos. Alors, poste des images pour moi, pas des photos. Voilà. Ce sont des images, c'est-à-dire qu'il y a du consumérisme. Donc, un petit peu inquiet, oui. Mais il y a encore des débouchés, il y a encore, et puis peut-être que le métier va évoluer sur d'autres structures et puis d'autres manières de s'exprimer en photo.
Combien il reste de tireurs aujourd'hui argentiques ?
Alors le nombre de tireurs argentiques professionnels, nous sommes 6. 6 à Paris. À la grande époque, 80-90, il y avait à peu près une quinzaine de tireurs par photographe, donc on était au moins 200-250. À partir des années 95, il y a eu l'arrivée du numérique. Bah, donc toute la presse, tout le cinéma, la mode est passée en numérique. Et ça a été la fermeture de pléthore de labos.
C'est quoi l'avenir des tireurs photos ?
J'espère qu'il va y avoir un avenir, surtout parce que ça fait partie pour moi du patrimoine et ça me ferait mal au cœur que ce métier-là n'existe plus. Déjà parce qu'il y aura des archives, il y aura toujours des archives négatives noir et blanc à tirer, il y aura toujours des passionnés, des collectionneurs, des galeries, des musées. On a eu le CD qui est arrivé et aujourd'hui on a quoi ? Le CD n'existe pratiquement plus et le vinyle est revenu. C'est une philosophie, la photographie argentique. Vous avez une pellicule de 36 poses. Ce n'est pas une disquette de 400, 500 ou 1000 photos. Vous n'avez que 36 poses dans votre appareil photo. Donc, c'est prendre son temps, c'est faire attention au cadrage, c'est ne pas appuyer successivement sur le déclencheur. Donc, pour moi, l'argentique continuera et au niveau de la prise de vue et au niveau du tirage.
Thomas Consani, de l'argent au bout des doigts, feuilleton signé Thibaut Cavaillès, réalisation Stéphane Ronxin, que vous retrouvez sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le jeudi à 13h50, nous parlons gastronomie avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Marilus, alors il y a ceux qui ont goûté le chocolat de Dubaï, et puis il y a les autres. De quel bord êtes-vous ?
Ben le second, Jérôme, au départ, je voulais vous en parler en connaissance de cause.
Vous n'avez pas trouvé ?
Non, j'ai éclusé les boutiques et les supermarchés de Bordeaux, mais ça relève vraiment du parcours du commentant. Et puis après tout, est-ce si grave ? Car cette tablette de chocolat qui se dévore ad libitum sur TikTok fascine d'abord parce qu'elle révèle de l'univers actuel de la consommation.
C'est-à-dire ?
Mais d'abord que ce sont les réseaux sociaux qui donnent le tempo des modes alimentaires, contraignant l'agro-industrie à courir derrière eux. Et tout va vite, très vite. Le phénomène de Dubaï a supplanté celui de la pâte à tartiner Elmore Jane, et puis aussi celui des framboises Franuit. Mais il est menacé depuis quelques jours par le chocolat à la barbe à papa et l'ubé latté, une boisson à base de lait et d'une variété d'igname violette. Ensuite, ça montre que ces mêmes réseaux sociaux sont une telle caisse de résonance qu'ils perturbent l'économie de filières entières, en l'occurrence celle de la pistache.
Petit rappel quand même sur ce chocolat.
Mais oui, parce qu'il a été donc lancé, comme son nom l'indique, dans cet émirat, devenu un nid non pas d'espions, mais d'influenceurs. En 2021, Sarah Amouda invente pour la chocolaterie Fix cette tablette fourrée de pâtes de pistache et de kadaïf, ces cheveux d'ange qui enrobent les baklavas. Fin 2023, une tiktokeuse brésilienne, Maria Vieira, s'en délecte dans une vidéo. Ça fait scrunch, ça coule sur ses doigts, ça comptabilise à ce jour 126 millions de vues.
Ah
Ah oui. Depuis, les industriels se sont mis à fabriquer leurs tablettes style Dubaï, d'où l'envolée du prix de la pistache et les menaces de pénurie.
Et qu'en disent les producteurs français qui, eux, replantent des pistachiers?
Mais ils sont si peu nombreux qu'ils observent cet engouement avec amusement. Sur les quelques 800 000 tonnes de pistaches produites dans le monde, la France en a récolté 200 kilos l'an dernier. Ces pionniers sont installés dans le Vaucluse et les départements limitrophes, un peu aussi en Occitanie. Ils sont convaincus que cette culture de qualité s'adapte au changement climatique. Mais penser que le chocolat de Dubaï va nous propulser est une plaisanterie. Et puis franchement, ces modes sont très volatiles, s'exclame Bruno Dufay, coordinateur de France Pistache, le tout jeune syndicat qui rassemble 120 producteurs.
On en vient à notre recette avec Mathieu Balbino, qui lui est au cœur du cyclone.
Oui, il est originaire de Carcassonne, mais il est le chef exécutif du restaurant de Pierre Gagnère à l'hôtel intercontinental de Dubaï. Il a vu monter la frénésie. C'est désormais le produit que les touristes ramènent dans leurs bagages, nous dit-il. En cuisine, nous avons même décliné un macaron au Dubaï Chocolate. Mmh. Il remporte un succès fou. La recette qu'il nous propose est simple. Associer de la crème anglaise, de la meringue, de la glace au chocolat noir, des fruits rouges et puis bien sûr une tablette de chocolat de Dubaï. Tout peut s'acheter, mais je vous propose de préparer au moins la crème anglaise pour qu'elle ait une bonne saveur vanille.
Commençons par ça.
Versez une gousse de vanille fendue en deux et tous ses grains dans 25 centilitres de lait. Fouettez deux jaunes d'œufs dans 35 g de sucre en poudre. Versez le lait bouillant sur le mélange œuf-sucre. Faites épaissir sous le feu en remuant avec une cuillère en bois. Partagez la crème refroidie dans 4 assiettes creuses. Fourrez la coque de la meringue de la glace au chocolat noir parsemée de framboises, de myrtilles, de mûres, de fraises et puis bien sûr de chocolat de Dubaï débité en copeaux. Après, comme il est absent des rayons, restons simples, c'est aussi très bon avec n'importe quel chocolat croqué.
Mais oui, ne nous compliquons pas la vie. Merci Marie-Luce Ribaud en direct de Bordeaux. De C'est la France à C'est une chanson croquon avec vous Frédéric Pommier et l'écrivaine Héloïse Gay de Bélissen que l'on retrouve à votre micro.
Son nouveau roman Le King et le Prophète est récemment paru chez Rivage, roman enquête autour de la figure d'Elvis Presley. Et c'est un titre d'Elvis qu'elle a souhaité que l'on écoute, une reprise de la chanson de Claude François, Parce que je t'aime mon enfant, en anglais c'est devenu My Boy.
My Boy, en fait, elle m'a complètement transie. Parce qu'elle est un petit peu ringarde, au fond. Il y a vraiment quelque chose de vieux dans les arrangements. Elle signe vraiment une époque, My Boy. Elle m'a touchée aussi parce qu'il y a des moments où sa voix est à la limite de se briser. Quand je l'écoute au casque, en tout cas, ça me parle direct, cette espèce de brisure. Elvis, c'est pas souvent, c'est quelqu'un qui fait des choses très rondes et parfois, il se brise. Et j'ai aimé ça aussi. Le thème aussi est assez beau. Un père qui vient voir son fils qui dort et qui pense l'avoir réveillé et lui dit que le couple avec sa mère ne va plus. Il s'aperçoit qu'en fait, l'enfant n'est pas réveillé. Et il continue à lui dire, voilà, si je reste avec ta mère, en gros, c'est pour toi. Donc, elle m'a impactée, cette chanson. C'est celle que je préfère d'Elvis.
Et vous connaissiez la version de Claude François ?
Alors non, j'ai pas voulu l'écouter, en fait. You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait. I wanted to explain before it gets too late. For your mother and me, this is no happy home, but God knows how I try. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay, I stay because of you, my boy.
C'est au milieu des années 70 qu'est sortie cette chanson d'Elvis, Frédéric.
Une chanson qu'Héloïse Gay de Bélissen a écoutée en boucle en écrivant son roman. Ce n'est pas seulement sa chanson préférée d'Elvis, mais peut-être sa chanson préférée tout court.
Quand je me suis mariée, je l'ai mise à l'église, vous voyez. J'ai dû vraiment négocier avec le prêtre, hein, parce qu'il faut de la musique sacrée à un mariage. Et donc il a fallu vraiment que je trime, je l'ai travaillé au corps. En plus, je lui ai dit qu'Elvis était très catholique, ce qui était vrai. Et donc j'ai mis My Boy à mon mariage.
Vous l'avez mis à quel moment du mariage ?
En entrée.
Le prêtre a finalement accepté ?
Ah oui, oui, oui. En fait, il pensait qu'Elvis était ultra violent. C'était peut-être un peu du Iron Maiden, je sais pas. J'ai vraiment senti le moment où, quand je lui ai fait écouter en lui disant « Pitié, regardez, c'est tout doux !» Et là, il s'est dit « Ah oui, c'est vrai, c'est pas si hardcore, en fait. »
Et quel sens ça avait pour vous mettre cette chanson-là au moment de votre entrée dans l'église, le jour de votre mariage ?
D'abord, c'est un mariage où il n'y avait que mes amis et pas ma famille. Et c'est vrai que inviter Elvis à mon mariage avec la chanson que je préfère, c'était un petit peu aussi me rassurer. C'est une balade sentimentale. Donc, c'était rassurant d'arriver sur Elvis. Ouais, c'est une chanson rassurante pour moi.
Votre famille n'était pas là parce que vous ne souhaitiez pas qu'elle soit là ?
Oui, c'est vrai. Donc, My Boy, c'est ma famille imaginaire, quoi, dans l'idée. And if I stay,
que quand vous écoutez cette chanson-là, vous mettez un autre visage que celui d'Elvis ?
Ah, c'est intéressant. Non. C'est Elvis que je vois, en fait. Je le vois parlant à un petit garçon. Mais qui me parle un peu, en fait. Hein, qui parle un peu à la moi-enfant aussi. Peut-être aussi, oui. Si vraiment je tire... c'est un père un peu parfait qui reste en couple pour son enfant. Donc oui, ça doit me toucher.
Chez vous, ça s'est pas passé comme ça ?
Pas trop, non. Pas vraiment. Non, non. Moi, c'est Cosette, en fait, hein, le truc.
Mais ça veut dire que vous auriez rêvé d'un autre papa ?
Au stade où j'en suis, non, en fait. Je trouve que dans le grand malheur d'avoir un père qui ne veut pas de vous, le bonheur, c'est d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est plutôt bien. Mais au départ, c'est pas bien. Vraiment. You haven't heard a word. Perhaps it's just as well.
Why spoil your little dreams? Why put you through the hell? Cette chanson, elle a donc accompagné votre mariage. Est-ce que vous pensez qu'elle peut accompagner d'autres événements intimes de votre vie?
Ouais, mon enterrement. J'aimerais qu'on m'enterre avec My Boy, pourquoi pas. Si on peut mettre My Boy, je serais contente.
Elvis Presley, c'était donc Frédéric, le choix d'Héloïse Gay de Bélissen.
Héloïse Gay de Bélissen, dont le dernier roman Le King et le Prophète vient de paraître chez Rivage.
Merci Frédéric et à demain.